y a chez les hommes quelque chose qui profondément les pousse à aller plus loin, plus haut, plus vite. Et c'est incontestablement le moteur du progrès. C'est très important.
Raison de la chose, nous ne porterons plus le triangle rose. Au grand jour, nous apparaissons, et vive la révolution. Au grand jour, nous apparaissons, et vive la révolution.
Et ce n'est pas un psychiatre de dire si on est un homme ou une femme, ou entre les deux.
Assez, c'est assez, la paix sociale est terminée.
Langue de fronde.
Langue de fronde.
Langue de fronde. Une émission féministe, meuf, gouine, trans.
Langue de fronde.
Langue. Langue de fronde.
Soy mujer, soy MC, soy quien soy, aquí estoy. Alístense grafiteros en sí, DJ B-Boy, que hoy verán como hip hop el que hacer una mujer dura. Pues tengo estilo, flow, talento y lírica cruda. La mujer es destreza, valentía y rudeza. ¿Quién dijo que la mujer solo sirve para la...
Ce sera un récit tout simple, celui d'une simple jeune fille russe. Là où était situé mon village natal de Diakovskoï, s'étend à présent le district Prolétarski de Moscou. Lorsque la guerre a éclaté, je n'avais pas encore 18 ans. J'avais de très longues nattes qui me tombaient jusqu'aux genoux. Personne ne croyait que la guerre durerait encore longtemps. Tout le monde pensait que quelques semaines suffiraient à la conclure. Bientôt, comme l'ennemi se trouvait déjà aux abords de Moscou, le comité central du Komsomol a appelé la jeunesse à assurer la défense de la patrie. Comment ça, les Allemands allaient prendre Moscou ? Ne les laisserions pas faire. Je n'étais pas la seule à vouloir aller à la guerre. Toutes les filles de mon âge exprimaient le même désir. Nous sommes arrivés au front, à Orcha. Versé dans la 62e division d'infanterie, le commandant, si je me souviens bien, était le colonel Borodkine. Quand il nous a vus, il s'est mis en colère. « Voilà qu'on me colle des filles sur le dos. Qu'est-ce que c'est que ce corps de balai ? C'est la guerre ici, pas une soirée dansante, une guerre cruelle. » Le lendemain, il nous a forcés à montrer ce dont nous étions capables. Tir, camouflage. Pour ce qui est de la première épreuve, nous en sommes très bien tirés. Mieux même que les hommes tireurs d'élite qui avaient été rappelés des avant-lignes pour un stage de 2 jours. Puis est venu le camouflage sur le terrain. Le colonel est arrivé, a déambulé un moment dans la clairière, l'a soigneusement inspecté, puis a grimpé sur un monticule de terre pour mieux voir. Toujours rien. Et là, le monticule, sous ses pieds, s'est mis à geindre. « Oh, camarade colonel, je n'en peux plus, vous êtes trop lourd, ce qu'on a ri. » Il n'arrivait pas à croire qu'on pouvait se camoufler aussi bien. « À présent, a-t-il déclaré, je retire ce que j'ai dit au sujet des filles. » Mais il était tourmenté quand même, il a mis longtemps à s'habituer à nous. Je suis partie pour la première fois à la chasse avec une coéquipière, Matcha. Nous nous sommes camouflés et avons attendu coucher. J'étais chargée de l'observation, Matcha tenait sa cabine épaulée. Tout à coup, elle me dit « Tire, tire, tu ne vois pas ? Un Allemand. » Je réponds. « Moi, j'observe. C'est à toi de tirer. » Pendant que nous sommes là à discuter, dit-elle, il va décamper. Mais j'insiste. Il faut d'abord établir une carte de tir, marquer les points de repère, la grange, le boulot. Tu te crois encore à l'école pour vouloir faire la bureaucrate. Je ne suis pas venue ici pour m'occuper de paperasse, mais pour me battre. Visiblement, elle commençait à être fâchée contre moi. « Eh bien alors, tire, qu'attends-tu ? » Et notre querelle reprend. Lorsqu'il est apparu pour la troisième fois, j'ai décidé de tirer. J'ai pris cette décision... Et subitement, une idée m'a traversée. C'est tout de même un être humain. Un ennemi, d'accord, mais un être humain. Mes mains se sont mises à trembler. Un frisson m'a parcouru tout le corps. Une sorte de terreur m'a envahi. C'était difficile de tirer sur un homme après les cibles en contreplaqué. Presque impossible. Je le voyais très bien dans la lunette de visée. Il paraissait tout proche. Et quelque chose en moi résistait, m'empêchait. Mais je me suis refusée et j'ai appuyé sur la détente. Il a agité les bras et s'est effondré. J'ignore si je l'ai tué ou seulement blessé, mais après cela, j'ai été prise d'un tremblement encore plus violent. J'étais comme terrorisée. Moi, je venais de tuer un homme. À notre retour à la section, nous avons raconté ce qui m'était arrivé. On a organisé une réunion. Klava Ivanovna, la responsable de notre cellule de Komsomol, a bien cherché à me convaincre. Il ne faut pas avoir pitié d'eux, il faut les haïr. Les nazis avaient tué son père. Parfois, nous nous mettions à chanter et elle nous disait « Les filles, il ne faut pas. Quand nous aurons vaincu ces vermines, alors oui, nous chanterons. Mais ça n'a pas marché tout de suite, tant s'en faut. Il a fallu d'abord se convaincre, se persuader. C'est une chose que de haïr le fascisme, mais c'en est une autre que de tuer un homme pour de vrai, de devenir soldat. On a beau apprendre, se préparer, être enthousiaste. Dès les premiers jours, on découvre combien le monde dans lequel on vient d'entrer est dur et cruel. C'est le récit de Maria Ivanovna Morozova, caporale, tireur d'élite.
Vous êtes bien avec nous sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM avec l'émission Langue de Fronde. Ce soir, on avait envie de présenter dans cette émission une auteure, Svetlana Alexievitch, et en particulier un de ses livres, La guerre n'a pas un visage de femme, qu'elle a écrit en 1985, et dont Théo vient de nous lire un extrait. Alors en studio, ce soir, il y a donc Céline.
Salut.
Théo.
Salut.
Clarisse en technique. Et moi, Léa. Alors cette auteure, Svetlana Alexievitch, est une journaliste biélorusse qui a écrit de nombreux livres et son œuvre a pour thème principal la guerre. Elle a reçu le prix Nobel l'année dernière. On va construire cette émission autour de lectures à plusieurs voix, de différents extraits, écrits par plusieurs femmes. Parce que pour ce livre, de nombreuses femmes, voire des centaines, ont prêté leur voix à la journaliste et elles racontent comment elles ont vécu, comment elles ont participé à la Seconde Guerre mondiale, que ce soit comme femmes soldats de l'armée rouge, comme résistantes ou encore comme partisanes. Elles sont brancardières, tireuses d'élite, pilotes, boulangères, mécaniciennes, combattantes ou blanchisseuses. Elles ont toute une vision de la guerre particulière et elles nous la racontent dans ce livre. Alors, je vais vous lire un extrait de l'auteur qui explique un petit peu sa démarche en tant que journaliste. J'écris l'histoire des sentiments. Non pas l'histoire de la guerre ou de l'État, mais l'histoire d'hommes ordinaires menant une vie ordinaire, précipités par leur époque dans les profondeurs épiques d'un événement colossal. Dans la grande histoire, ce ne sont pas des héroïnes célèbres et encensées qu'on entendra parler, j'ai sciemment évité leur nom, mais de celles qui disent d'elles-mêmes « nous étions des filles ordinaires », comme il y en avait alors des milliers. Mes héroïnes, on les voit dans la rue, dans la foule, et non sur des tableaux accrochés au musée. Je recompose une histoire à partir de fragments, de destins vécus, et cette histoire est féminine. Je veux connaître la guerre des femmes, et non celle des hommes. Quels souvenirs ont gardé les femmes? Que racontent-elles? Personne encore ne les a écoutées.
Alors, on va continuer avec un extrait de Maria Silvestrovna Bojok, infirmière. Le plus insupportable pour moi, c'était les amputations. Souvent, on amputait si haut que lorsque la jambe était coupée, j'étais à peine capable de la soulever pour la déposer dans le bac. Je me souviens combien c'était lourd. Je prenais la jambe discrètement pour que le blessé n'entende rien. Et je l'emportais dans mes bras comme un bébé, surtout si c'était une amputation haute, loin au-dessus de genoux. Je n'arrivais pas à m'y habituer. Dans mes rêves, je trimbalais des jambes. Je n'écrivais rien de tout cela à maman. Je disais que tout allait bien, que j'étais chaudement vêtue et bien chaussée. Elle avait 3 enfants au front. C'était dur pour elle. Suit un extrait de Nina Vladimirovna Kovelenovna, sergent-chef, brancardière d'une compagnie de tirailleurs. Les combats au corps à corps. Quels souvenirs j'en garde? Je me rappelle les craquements. Le corps à corps s'engage et on entend aussitôt des craquements. Cartilage qui se brise, os qui craque. Durant l'attaque, je marche à côté des soldats, légèrement en retrait pour dire vrai, disons juste à côté. Tout se déroule sous mes yeux, les hommes embrochés par les baïonnettes, les blessés qu'on achève. Après la guerre, je suis rentrée chez moi à Toula. Dans mon sommeil, je n'arrêtais pas de crier. Ma mère et ma sœur passaient la nuit assises à mes côtés. Je me réveillais à mes propres hurlements.
Le récit de Klavdia Ivanovna Terekova, capitaine dans l'armée de l'air. Les filles étaient arrivées à l'école militaire toutes joliment coiffées. Moi-même, j'avais des nattes enroulées autour de la tête. Mais comment se laver les cheveux? Où les sécher? Vous venez de les laver et c'est l'alerte. Vous devez courir. Notre commandant, Marina Raskova, nous a ordonné à toutes de couper nos tresses. Les filles ont obéi en versant des larmes. Nos robes, nos escarpins à talons, comme nous regrettions de ne pouvoir les porter. Nous les gardions planquées dans nos sacoches. Durant la journée, on portait les bottes, mais le soir, ne fût-ce qu'un moment, on chaussait les escarpins devant un miroir. Raskova s'en est aperçue et quelques jours plus tard, nous avons reçu l'ordre de réexpédier chez nous, par colis, tous nos vêtements féminins. En revanche, nous avons appris le maniement d'un nouvel avion en 6 mois, au lieu de 2 ans comme c'est la règle en temps de paix. Nous pilotions des avions de chasse. L'altitude elle-même représentait une épreuve terrible pour l'organisme féminin. On avait parfois l'impression d'avoir le ventre collé à la colonne vertébrale, mais nos filles volaient et abattaient des as. Et quels as ! Vous savez, lorsque nous passions, les hommes nous regardaient avec étonnement. « Voilà les femmes pilotes !» Ils nous admiraient.
L'auteur nous fait partager un petit peu comment elle a choisi ses témoignages. Donc elle raconte qu'au début de son travail, elle enregistre tout ce qu'elle entend, tous les témoins qu'elle rencontre. Et puis, peu à peu, en fait, son nom se transmet d'une femme à une autre. Elle est invitée à des réunions de vétéranes. Et bientôt, écrit l'auteur, elle dit « Bientôt, j'ai compris qu'il était impossible d'enregistrer tout le monde, qu'il fallait arrêter un principe de sélection et d'accumulation du matériau. Oui, mais lequel ? Après avoir classé les adresses que j'avais déjà à ma disposition, ce principe, je suis parvenue à le formuler ainsi. Je devais m'efforcer de noter le témoignage de femmes ayant exercé différents métiers militaires, car chacun d'entre nous voit la vie à travers son métier, à travers la place qu'il occupe dans le monde, ou bien au sein de tel événement auquel il participe. Il serait logique de supposer, malgré le caractère très conventionnel d'une telle affirmation, qu'une infirmière a vu une certaine guerre, une banlieue une autre, une parachutiste une troisième, une pilote une quatrième, le chef d'une section de mitrailleurs une cinquième. À la guerre, chacune de ces femmes avait son propre champ de vision. Pour l'une, c'était la table d'opération. Pour une autre, c'était les marmites de la cuisine roulante. Pour une troisième, c'était sa cabine de pilotage.
Ensuite, dans un chapitre que j'aime particulièrement, qui s'appelle « Des chevaux et des oiseaux », donc je vais vous lire une série d'extraits. Je me souviens d'un fait. On est arrivé dans un village et là, à l'orée d'un bois, on a découvert les cadavres de partisans. Je ne peux vous décrire ce qu'ils avaient subi. Ils avaient été torturés, littéralement découpés en morceaux. Même ces mots me font peur. Je ne veux pas raconter pareille horreur. Or, à côté, tout près, il y avait des chevaux en train de paître. On voyait que c'était les chevaux des partisans. Ils étaient même encore scellés. J'ignore s'ils avaient réussi à échapper aux Allemands et étaient revenus plus tard ou si les Allemands n'avaient pas eu le temps de les emmener. Les bêtes étaient paisibles, l'herbe était abondante. Comment des hommes ont-ils pu commettre une telle abomination en présence des chevaux, devant des animaux qui les regardaient ? À la fin de l'automne, des oiseaux passaient dans le ciel. D'interminables volées d'oiseaux. Notre artillerie et celle des Allemands pilonnaient sans relâche, et eux volaient au-dessus de tout ça. Comment le leur crier ? Comment les avertir ? Pas par ici, c'est dangereux ! Les oiseaux tombaient, s'abattaient par terre. Nous venions de reprendre un village. Nous cherchons un endroit pour faire provision d'eau. Nous entrons dans une cour où s'élève un chadouf. Il y a là un puits en bois, sculpté. Le maître des lieux gît sur le sol, le corps criblé de balles. Un chien semble monter la garde à côté. Le chien nous voit, commence à geindre. Nous avons mis un moment à comprendre qu'en fait il nous appelait. Il nous a conduits vers l'entrée de la chaumière, nous l'avons suivi. Sur le seuil était étendue la femme de l'homme et trois petits-enfants. Le chien s'assoit près d'eux et se met à pleurer. À pleurer vraiment, comme un être humain, un grand chien. J'ai pensé pour la première fois, pourquoi les hommes n'ont-ils jamais honte devant les animaux ? Je suis rentrée chez moi, j'ai retrouvé logeant dans une hutte ma mère et ses trois jeunes enfants, et un petit chien qui mangeait de la roche. Et ils faisaient cuire de la roche, en manger eux-mêmes et en donner au chien, qu'il a mangé. Avant la guerre, chez nous, il y avait chez nous quantité de rossignols. Après la guerre, personne n'en a plus entendu durant 2 ans. Toute la terre avait été retournée. On avait soulevé, comme on dit, le fumier des aïeux. Tout avait été labouré. La troisième année, les rossignols ont réapparu. Où étaient-ils passés ? Nul ne le sait. Ils sont revenus 3 ans plus tard. Les gens ont rebâti leur maison. Et les rossignols sont revenus.
Récit de Zindaya Valizdevna. J'en ramenais un blessé quand j'ai vu soudain 2 Allemands surgir de derrière une chenillette. La chenillette avait été détruite, mais apparemment, ils avaient eu le temps de sauter à terre. Ça a été l'affaire d'une seconde. Si je n'avais pas tiré une rafale, ils m'auraient descendu avec mon blessé. Tout s'est passé de manière tellement inattendue. Après le combat, je me suis approchée d'eux. Ils gisaient les yeux ouverts. Je me rappelle encore ses yeux. L'un, je me rappelle, était un très beau garçon. C'était dommage. Même si c'était un fasciste. Enfin, peu importe. Ce sentiment ne m'a pas quitté pendant longtemps, car on n'a pas envie de tuer, vous comprenez ? On se dit avoir fait au mal, on est empli de haine. Pourquoi sont-ils venus nous envahir ? Mais quand on essaie soi-même de tuer, c'est horrible, atroce. La bataille était terminée, l'Estonia de Cosaques lève le camp, mais Olia n'est pas là. Je suis la dernière à me mettre en marche. Je regarde tout le temps en arrière, le soir tombe, et Olia n'est toujours pas là. Une information relayée par les Sodia m'apprend qu'elle et quelques-uns d'autres se sont attardés pour ramasser des blessés. Je ne peux rien faire que l'attendre. Je laisse Mastonia s'éloigner, j'attends encore, puis je rattrape les autres. Je pleure. Aurais-je perdu ma sœur dans ce premier combat ? Où est-elle ? Que lui est-elle arrivée ? Si ça se trouve, elle est en train de mourir quelque part. Elle m'appelle. En larmes, Olia aussi était tout en larmes. Elle ne m'a retrouvée qu'à la nuit. Tous les Cosaques pleuraient. On assistait à nos retrouvailles. On s'est pendus au cou l'une de l'autre et on ne pouvait plus détacher. Nous avons alors compris qu'il était impossible, insupportable, pour nous de rester ensemble. Mieux valait qu'on se sépare. Si jamais l'une de nous mourait sous les yeux de l'autre, celle-ci n'y survivrait pas. Nous avons conclu que je devais demander à être mutée dans un autre escadron. Mais comment nous séparer ? Comment ?
Vous êtes toujours sur 106.3 FM avec l'émission Langue de Fronde. On va faire une petite pause musicale en écoutant Naysam Jalal et Rhythm of Resistance.
toujours sur FPP 106.3 FM. Vous venez de découvrir Naysam Jalal, flûtiste syrienne, dont nous vous invitons à découvrir la suite de son travail sur Internet. Donc, on va continuer la lecture de texte avec un petit mot de l'auteur. Il y a beaucoup de monde à la guerre et beaucoup de choses à faire. On ne se contente pas d'y tirer, fusiller, bombarder, saboter, livrer au combat au corps à corps. On s'y emploie aussi à laver le linge, cuire la cacha, pétrir le pain, réparer les véhicules, distribuer le courrier, apporter le tabac. La guerre n'est pas constituée que de grands événements, elle l'est aussi de petits détails. Notre simple travail de bonne femme en représentait une part immense, dit l'aide-soignante Alexandra Yosofna Michoutina. L'armée marchait en avant, derrière elle s'étirait un second front. Blanchisseuse, cuisinier, mécanicien, postier. On vous propose donc de découvrir quelques extraits de ce second front.
Dans le chapitre « Nous n'avons pas tiré », récit de Maria Semyonovna Kulakova, simple soldat, boulangère. J'ai fait l'école d'instituteur. J'ai obtenu mon diplôme alors que la guerre avait déjà éclaté. Comme c'était la guerre, au lieu de nous donner un poste, on nous a renvoyés chez nous. Je suis rentrée à la maison et quelques jours plus tard, j'ai été convoquée au bureau de recrutement. Maman, bien sûr, ne voulait pas me laisser y aller. J'étais encore toute jeune, je n'avais que 18 ans. « Je vais t'envoyer chez mon frère, je dirai que tu n'habites plus ici. »« Mais je suis une comsomol, » ai-je répondu. Au bureau de recrutement, on nous a rassemblés pour nous dire qu'on avait besoin de femmes pour les boulangeries de l'armée. C'est un travail extrêmement pénible. Nous avions 8 fours métalliques. On arrivait dans un village ou une ville en ruine et on les installait. Une fois les fours en place, il fallait du bois, 20 à 30 seaux d'eau, 5 sacs de farine. Nous, gamines de 18 ans, nous coltinions des sacs de farine de 70 kilos. On les empoignait à deux, et hop, c'était parti. Ou bien on nous posait 40 grosses miches de pain sur une civière. Moi, par exemple, j'étais incapable de soulever ça. Jour et nuit devant le four, jour et nuit. À peine avait-on fini de pétrir une fournée qu'il fallait s'occuper de la suivante. On nous bombardait, et nous étions encore là à faire le pain. Zoya Lukanovna, chef de section d'un bataillon du génie, nous raconte « Nous construisions des voies ferrées, des ponts de bateaux, des casemates. Le front était tout près. Nous creusions la terre pendant la nuit pour ne pas être repérés. Nous abattions du bois. Dans ma section, il y avait surtout des filles, toutes très jeunes. Il y avait aussi quelques hommes, inaptes au service armé. Comment faisait-on pour dégager un arbre? On s'y mettait tous pour parvenir à le soulever. Un seul arbre réclamait la section entière. On avait les mains, les épaules couvertes de cale sanguinolente. On est toujours dans la lecture d'extraits du livre « La guerre n'a pas un visage de femme » de Svetlana Alexievitch.
Récit de Valentina Kousmitchaya Brasinskova Broskevskaya. Au saillon du Kourtch, j'ai été transférée de l'hôpital dans une section d'hygiène de campagne en tant que zampolite. Les blanchisseuses étaient des volontaires civils. En général, nous nous déplacions en chariot. Il fallait avoir les bassines entassées, les cuves à lessive dressées au milieu. Les savoirs pour chauffer l'eau et juchées tout en haut, des filles en jupes rouges, vertes, bleues et grises. Tout le monde riait. L'armée des blanchisseuses est en marche. Quant à moi, on m'appelait la commissaire lingère. Il s'est passé du temps avant que mes filles puissent s'habiller plus décemment, se saper comme on dit. On travaillait très dur. Nous arrivions sur place, on nous attribuait une chaumière, une maison ou une simple houtte. Nous y faisions la lessive et avant de l'entendre, plutôt de l'étendre, à sécher, nous imprégnions le linge du savon spécial K pour éliminer les poux. On avait bien du DDT, mais ça n'y faisait rien. Nous utilisions du savon K, un savon puant d'une odeur atroce. On mettait le linge à sécher dans le même local où nous faisions la lessive, et c'est aussi là que nous dormions. On nous donnait 20 à 25 grammes de savon pour laver le linge d'un soldat. Or, ils étaient noirs comme de la terre. Beaucoup de filles attrapaient des hernies à force de frotter le linge, de porter des charges trop lourdes, de subir des tensions continuelles. Beaucoup également avaient les mains rongées d'eczéma à cause du savon K. Leurs ongles tombaient, on pensait qu'ils ne pourraient jamais repousser. Et pourtant, elles se reposaient une journée ou deux, puis retournaient à leur baquet. Les filles m'obéissaient. Une fois, on arrive dans un endroit où cantonnait une unité d'aviateurs. Imaginez la scène. Quand ils nous ont vus dans nos vêtements noirs, d'usure et de crasse, ces gars-là ont détourné la tête avec dédain. Oh, ce ne sont que des blanchisseuses. Mes filles en pleuraient presque. Sompolite, vous avez vu ? Ce n'est rien. Allez, on se vengera d'eux. Et nous avons élaboré un plan. Le soir, mes filles se mettent ce qu'elles ont de mieux et se réunissent dans le pré. L'une joue de l'accordéon et les autres dansent. Ce qui était convenu, c'était qu'aucune ne danserait avec aucun pilote. Cela aborde les filles, mais elles refusent toutes les invitations. Et pendant toute la soirée, elles n'ont dansé qu'entre elles. Finalement, les gars nous ont implorés. « Vous ne pouvez pas nous en vouloir à tous pour une parole d'un seul crétin ?»
Récit d'Elena Ivanovna Babina, combattante des troupes auxiliaires de la défense civile. Les troupes allemandes avaient été arrêtées devant Voronev. Il leur a fallu beaucoup de temps pour réussir à prendre la ville. Celle-ci était bombardée sans cesse. Les avions passaient au-dessus de notre village de Moskovska. Je n'avais pas encore vu l'ennemi, je ne voyais que ses avions. Mais j'ai très vite appris ce qu'était la guerre. Notre hôpital a été un jour informé qu'un convoi venait d'être bombardé juste aux abords de Voronev. Nous nous sommes rendus sur place et nous avons vu... Qu'est-ce que nous avons vu ? De la viande hachée, je ne peux pas exprimer ça. Notre professeur a été le premier à se ressaisir. Il a commandé d'une voix forte. « Les civières ! » J'étais là. J'étais là la plus jeune, je venais juste d'avoir 16 ans. Et tout le monde avait un œil sur moi, de peur que je ne tombe dans les pommes. Nous avons longé les rails, inspecté les vestiges de wagons. Il n'y avait personne à allonger sur les civières. Les wagons brûlaient encore, on n'entendait ni gémissement, ni cri. Il n'y avait plus une personne en vie. Je gardais la main crispée sur mon cœur, mes yeux se fermaient devant l'atrocité du spectacle. De retour à l'hôpital, nous nous sommes tous écroulés, l'un la tête sur la table, l'autre affalé sur une chaise, et nous nous sommes endormis, comme ça. J'ai terminé mon service et je suis rentrée chez moi. Je suis arrivée le visage en larmes, je me suis étendue sur mon lit, mais dès que je fermais les yeux, je revoyais tout. Ma mère est rentrée du travail, puis mon oncle Mitya. J'ai entendu la voix de maman. Je ne sais pas ce que va devenir Léna. As-tu vu comme elle a changé de figure depuis qu'elle travaille à l'hôpital ? Elle ne se ressemble plus, elle ne dit pas un mot, ne cause avec personne. Pousse des cris dans son sommeil. Et où son sourire est-il passé ? Et son rire ? Tu sais pourtant comme elle était gaie. Maintenant, elle ne plaisante plus jamais.
Récit d'Antonina Mironovna Lenkova, mécanicienne d'un atelier de campagne pour blindés et véhicules automobiles. Le 10 novembre 1942, après nous être munis selon les ordres de provisions pour 10 jours, nous, 25 jeunes filles à peu près, avons grimpé dans un vieux camion déglingué et entonné « L'ordre est donné ». En chemin, je m'étais liée d'amitié avec deux filles, Anouchka et Asia. Aucune des deux ne possédait un métier et moi, je considérais que le mien était purement civil. C'est pourquoi, quelle que fût la spécialité réclamée, nous faisions toujours, ensemble, trois pas en avant, considérant que nous pourrions apprendre sur le tas. Mais on ne nous prêtait aucune attention. Un jour cependant, alors que nous venions nous avancer en réponse au commandement « chauffeur, tractoriste, mécanicien, trois pas en avant », l'acheteur, qui était un jeune lieutenant-chef, n'a pas réussi à nous éviter. J'ai fait non pas trois pas en avant, mais cinq. Et il s'est arrêté. « Pourquoi choisissez-vous uniquement des hommes ? Je suis tractoriste, moi aussi. » Il s'est étonné. « Pas possible. Tiens, dis-moi, quel est le cycle de fonctionnement d'un moteur de tracteur ? Quatre temps. 1, 3, 4, 2. As-tu déjà coulé des paliers ?» J'ai avoué honnêtement que j'avais bousillé deux paliers de bielle. « C'est bon, je te prends pour ta franchise. » Il m'a salué de la tête et a continué son chemin. Mes copines se sont rangées à côté de moi. Le lieutenant-chef a esquissé une mimique pour indiquer ce qu'elles étaient d'accord. « Oh, putain de ta mère !»
avec Revolution de Eli Louv, une femme kurde qui chante donc, et dans le clip on voit bien qu'elle est en pleine scène de guerre au Kurdistan. Et justement, on voulait faire un point maintenant sur un peu ce qu'on appelait guerre ou les différents types de guerre, d'usage d'armes qu'on pouvait ou qu'on voyait nous, dans la mesure où on essaye plutôt de dénoncer la guerre en tant que guerre, guerre menée par des États, guerre menée pour défendre un empire ou le capital, etc. Et face à ça, s'organisent des résistances à la guerre ou alors des participations forcées à la guerre. Et c'est plutôt de ces participations forcées-là qu'on a parlé jusque-là, dans tous les témoignages que vous avez entendus. Et parfois, ce n'est pas forcément une participation forcée, c'est une participation active, mais comme forme de résistance, voire d'autodéfense. Et alors, c'est soit des autodéfenses populaires, soit, nous, ce qu'on voulait mentionner, c'était des formes d'autodéfense populaires organisées par des femmes, notamment. Et comme on vient d'entendre Eli Louv et sa musique Révolution, on peut, je pense, commencer par parler, alors ce ne sera pas dans l'ordre chronologique, mais par parler ou par revenir sur la situation au Kurdistan qu'on a évoquée dans la dernière émission Langue de Fronde au mois de mai. Parce que dès les années 70, donc on a vraiment une expérience hyper importante, une expérience politique d'auto-organisation des femmes dans un contexte de guerre et de lutte armée. Et ces unités-là, donc ces bataillons d'autodéfense de femmes, on les appelle les YPS, JIN, donc on les a mentionnés le mois dernier. Donc ce sont des unités de défense civile de femmes. Sur ce point, vous pouvez aussi lire sur le site Vacarm un article qui s'appelle « La lutte des femmes au Kurdistan », signé par le collectif Solidarité Féministe Kobané. Et donc voilà, sur cette importance des luttes armées auto-organisées par les femmes. On fait un petit détour aussi, donc complètement dans le désordre, un petit détour par ce qui s'est passé au début du XXe siècle en Irlande. Et alors moi, je n'étais pas du tout au courant jusque-là. À partir de 1913, en fait, à Dublin, il y a une grande grève générale qui ensuite a peu à peu abouti à une forme de guerre civile. Et dans cette grève générale a pris forme ce qu'on appelle la Irish Citizen Army, et donc qui est une forme de milice d'autodéfense ouvrière irlandaise. Et dans cette milice ont eu un rôle important, progressif, certaines femmes, notamment une femme qui s'appelle Constance Markievicz, appelée la Comtesse Rouge, qui en fait dirigeait les femmes de cette milice, donc cette Irish Citizen Army, et qui, par exemple, avec d'autres femmes, allait voler des armes à l'armée britannique pour se les réapproprier et renverser ces armes vers l'oppresseur, en l'occurrence le pouvoir britannique. Et donc là, ce mouvement de grève générale s'est orienté vers un mouvement pour l'indépendance irlandaise. Et en Pâques de 1916, il y a 100 ans tout pile, les femmes ont vraiment eu un rôle de premier ordre dans le soulèvement pour cette indépendance. Elles ont pris les armes. La comtesse Markievicz, elle, était sniper à ce moment-là. Et voilà, certains historiens racontent que justement, quand les Anglais, donc quand les Britanniques, ont vu que les femmes aussi se battaient contre eux, c'était vraiment la panique et la colère de la part du gouvernement et de l'Empire. Il raconte même que les Britanniques ont été jusqu'à censurer et transformer des photos sur lesquelles on voyait des femmes présentes armées ou présentes dans la lutte armée, pour ne pas dire en fait que l'Empire britannique a été battu par des femmes, parce que c'était donc vraiment la honte, quoi. Et donc voilà, donc ça c'était au tout début du XXe siècle en Irlande. Et un peu plus tard, on fait un détour aussi par l'Espagne, et donc ça c'est dans les années 30, en 1936, le mouvement des Mujeres Libres, qui donc, à partir de 1936, se sont constitués aussi en groupes indépendants, qui étaient entre autres un groupe armé de femmes, mais pas que. Alors, ça rejoint aussi tous les témoignages qu'on a entendus jusque-là. C'était aussi des femmes qui étaient à l'arrière, qui s'organisaient, qui organisaient le lien entre l'arrière et le front, qui faisaient des ravitaillements, qui étaient infirmières, qui pouvaient avoir plein de rôles différents, mais qui notamment allaient à l'affrontement. Et donc ça, ce groupe de Mujeres Libres, c'est vraiment un groupe avec une stratégie d'action directe et qui est pour le changement social, en fait. C'est-à-dire que c'est à la fois un combat, comme je disais, armé, mais aussi avec notamment des campagnes d'alphabétisation pour œuvrer de façon un peu globale dans un renversement révolutionnaire de la place des femmes dans la société, c'est-à-dire à la fois contre le pouvoir et contre, au sein du mouvement, l'oppression des hommes sur les femmes. Et à ce sujet, vous pouvez lire donc la, entre guillemets, femme dans la guerre et dans la révolution, Mujeres Libres 1936 de Lucia Sanchez Saornil, qui donc a vécu de 1895 à 1970 et qui était hyper importante dans ce mouvement-là et qui a laissé donc des traces et des témoignages.
Voilà, donc ça c'était vraiment des femmes organisées pour un féminisme prolétarien dans une Espagne révolutionnaire. Et voilà. Et enfin, un autre mouvement qui me semblait intéressant et qui lui est contemporain, donc c'est pas dans un cadre de guerre directement entre deux États ou de guerre civile, mais en fait c'est dans le cadre d'une guerre qu'on peut appeler celle que le patriarcat mène aux femmes. C'est un mouvement en Inde qui s'appelle le Gang des Saris Roses, ou autrement dit le Gang Rose. Et c'est un mouvement qui est initié en Uttar Pradesh, donc une région au nord-est de l'Inde, je crois, depuis 2006. Et à peu près 20 000 femmes ont rejoint cette forme de milice, encore une fois, qui en fait apprend à se défendre et à se protéger, notamment donc se protéger soi-même et protéger d'autres femmes, notamment dans le cas où la police refuse d'enregistrer des plaintes et d'intervenir. Et donc l'idée part du principe que la philosophie non-violente de Gandhi, c'est ce qu'elle disait elle-même, ne peut plus suffire. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne passe pas à l'action directe, on ne sera jamais écouté. Elles apparaissent souvent avec des bâtons, ce qu'elles appellent elles les lathis. Et donc c'est vraiment leur arme principale. Dans les manifestations, elles apparaissent parfois aussi avec des haches. Et donc leur objectif, c'est de lutter contre ce que je nommerais la guerre que le patriarcat mène aux femmes. Donc c'est pas exactement, voire pas du tout le même contexte que ce qui a été mentionné jusque-là. Une des militantes principales de ce mouvement s'appelle Sampat Pal Devi. Elle a publié un livre en 2008 qui s'appelle « Moi, Sampat Pal, chef de gang en sari rose », que vous pouvez lire, qui est assez intéressant à ce sujet-là. Et une dernière chose que je voulais mentionner, c'était le fait que cette personne, donc Sampat Pal, prend exemple notamment dans ce livre sur une autre femme qui s'appelle Lakshmi Bai et qui est une reine qui a formé sa propre armée en 1887 en Inde contre les Anglais. Cette reine, donc cette femme, Lakshmi Bai, elle est devenue vraiment un symbole de la résistance contre les colons britanniques, un symbole de guerre d'indépendance indienne. Et qui a donc, elle, non pas dirigé une armée de femmes ou participé à une armée de femmes, mais en tant que femme, pris les armes pour mener cette guerre. Voilà, encore une fois, une guerre qu'on pourrait appeler, donc, dans le cadre d'une guerre d'indépendance, une guerre d'autodéfense, de résistance populaire. Bon, c'était une reine, mais dans ce cas-là, la défense d'un peuple contre un envahisseur, contre le colon. Et voilà, et donc tous ces petits exemples pour dire qu'il existe quand même un peu partout, et notamment il y a d'autres choses dont on n'a pas parlé, mais en Bolivie, au Chili, dans plein d'autres pays, des luttes qui s'organisent et qui parfois en passent par les armes, comme quelque chose où on se retrouve forcé de faire ça. Et voilà, et maintenant on peut juste mentionner pour finir qu'aujourd'hui commence le salon de l'armement Eurosatoris en France, à Villepinte, donc à côté d'ici, et que la France va essayer de passer non plus quatrième mais troisième vendeur d'armement mondial, et que voilà, la France participe aussi pleinement à toute cette entreprise de guerre au niveau mondial.
Merci Claire. On va revenir sur des lectures d'extraits et... Ça va se rapprocher un petit peu avec ce que Claire vient de dire. On va parler un peu de cette deuxième guerre qui a eu lieu, et dans notre histoire française, on n'en a peut-être pas tellement parlé, qui est le mouvement des résistants et des partisans. Donc on va prendre quelques extraits de ça, juste pour vous faire une petite remise en contexte. Donc le 22 juin 1941, l'Allemagne fait ce qu'elle appelle une Blitzkrieg. C'est donc une guerre éclair qui mène à l'occupation de la Biélorussie, donc qui fait partie de l'URSS à cette époque. Au début, donc, la Biélorussie, en fait, ont accueilli assez favorablement les Allemands. Pour eux, ça représentait un peu la fin de la répression soviétique stalinienne. Mais devant l'occupation brutale des nazis, donc avec énormément de déportations, des incendies de villages, ça a un peu forcé les populations locales à rejoindre donc la résistance anti-nazie qui s'est montée. Et donc, on a un groupe de résistants et de partisans. Et avec une création donc de ces groupes dans les territoires occupés par l'Allemagne pour s'attaquer, donc un petit peu comme pendant la résistance française, donc à des attaques de routes et des télécommunications, et c'est tuer des personnes importantes de nazis, des destructions d'armes. Donc voilà, on va vous lire quelques petits extraits de résistantes et de partisanes.
Maria Vassilievna Pavlotets, médecin chez les partisans. Je suis retournée à mon village. Des enfants jouaient devant notre maison, je les regarde et je pense, laquelle est la mienne? Ils sont tous pareils. Tous tondus, comme on tondait autrefois les Montouins à la chaîne. Et je n'ai pas reconnu ma fille. J'ai demandé qui d'entre eux était Louisia. Je vois alors des gamins vêtus d'une longue chemise et courant vers la maison. Il était difficile de distinguer dans le lot qui était un garçon, qui était une fille, car ils étaient tous habillés pareils. Je demande à nouveau, alors, qui parmi vous est Louisia? Ils tendent le doigt vers la maison. Et j'ai compris que le gamin qui venait de se sauver était ma fille. Quelques instants plus tard, une grand-mère l'a fait sortir en la tenant par la main. C'est ma grand-mère, la mère de ma mère. Elle l'a conduit vers moi. « Allez, allez, on va gronder cette maman qui nous a abandonnés. » J'étais à cheval, je portais le calot et la tenue militaire. Ma fille imaginait bien sûr sa maman pareille à sa grand-mère et aux autres femmes. Et là, elle voyait devant elle un soldat. Elle a mis longtemps à accepter de venir dans mes bras. Je lui faisais peur, et je n'avais pas à me fâcher. Ce n'était pas moi, après tout, qui l'avais élevée. Elle avait grandi avec ses grand-mères. En guise de cadeau, j'avais apporté un savon. À l'époque, c'était un cadeau de luxe. Et quand j'ai commencé à laver ma fille, elle s'est mise à mordre à pleines dents dedans. Elle avait envie de le goûter et de le manger. C'est ainsi qu'ils avaient vécu. Je me rappelais ma mère comme une jeune femme, mais c'était une vieille qui m'a accueillie. On lui a dit que sa fille était là, et elle s'est précipitée hors du potager. Elle m'a aperçue dans la rue, a ouvert grand ses bras et a couru vers moi. Moi aussi, je l'avais reconnue, et je me suis élancée à sa rencontre. Elle n'a pas pu franchir les derniers pas qui nous séparaient, elle est tombée à bout de force. Je suis tombée à côté d'elle, j'embrasse ma mère, j'embrasse la terre. Et j'ai un tel amour dans le cœur et une telle haine. Je me souviens d'un Allemand, blessé, étendu par terre, qui s'agrippe au sol. Un de nos soldats s'approche de lui. « Touche pas, c'est ma terre, la tienne est là-bas, d'où tu es venu. »
Extrait du récit de Lyudmila Mikhailovna Kachetlina, résistante. Je savais quel risque je prenais en m'engageant dans la résistance, mais je l'ai vraiment compris et ressenti lorsque la SD m'a arrêtée. J'ai été battue à coups de bottes, à coups de cravache. J'ai appris ce qu'était la manucure nazie. On vous fixe les mains sur une table et une espèce de machine vous enfonce des aiguilles en dessous des ongles, sous chaque ongle en même temps. C'est une douleur infernale. On perd tout de suite connaissance. Je n'ai pas vraiment de souvenirs. Je sais que c'est une douleur atroce. Mais ce qui vient ensuite, je ne m'en souviens pas. J'ai été écartelée sur des poutres. Peut-être n'est-ce pas exact, peut-être est-ce mal formulé, mais je me rappelle ceci. Il y avait une poutre, et là une autre poutre, et on m'a placée entre les deux. Et puis une sorte de machine. Vous entendez vos os craquer et se déboîter. Est-ce que cela dure longtemps? Je ne m'en souviens pas non plus. J'ai aussi subi la torture de la chaise électrique. C'est quand j'ai craché à la figure d'un de mes bourreaux. Je ne me rappelle pas s'il était jeune ou vieux, il m'avait entièrement déshabillée. Et celui-là s'est approché de moi et m'a empoigné par la poitrine. J'étais impuissante, je ne pouvais que cracher, alors je lui ai craché à la figure et ils m'ont fait asseoir sur la chaise électrique. Depuis, je supporte mal l'électricité. Je me rappelle les convulsions que cela produit. Aujourd'hui encore, je ne peux même pas repasser le linge, ça m'est resté à vie. À peine ai-je posé la main sur le fer, je ressens le courant dans tout mon corps. Je ne peux rien faire qui soit lié à l'électricité. Peut-être aurais-je eu besoin d'une psychothérapie après la guerre, je ne sais pas. Mais j'ai déjà vécu ma vie comme ça. Je ne sais pas pourquoi je pleure aujourd'hui. À l'époque, je ne pleurais pas. On m'a condamnée à la peine de mort par pendaison. On m'a transférée dans la cellule des condamnés à mort. Il y avait là deux autres femmes. Vous savez, nous ne pleurions pas. Nous ne nous abandonnions pas à la panique. Nous savions, en nous engageant dans la résistance, ce qui nous attendait. Et c'est pourquoi nous nous tenions tranquilles. Nous parlions de poésie. Nous nous remémorons. Rions nos opéras préférés, nous parlions beaucoup d'Anna Karénine, de l'amour. Nous n'évoquions même pas nos enfants, nous avions trop peur de ces souvenirs-là. Nous parlions même à sourire, nous parvenions même à sourire, à nous réconforter l'un l'autre. Nous avons passé ainsi 2 jours et demi. Au 3e jour, dans la matinée, j'ai été convoquée. Nous nous sommes fait nos adieux, nous nous sommes embrassés, sans verser de larmes, je n'avais pas peur. J'étais sans doute tellement habituée à l'idée de mourir que je n'avais plus peur. Je n'avais pas de larmes non plus, c'était comme un vide. Je ne pensais plus à personne.
Et maintenant, le récit de Antonina Alexeevna Kondrachova, agent de renseignement de la brigade de partisans de Bitoche. J'ai rempli ma mission, et du coup, je ne pouvais plus rester au village. Je suis partie rejoindre les partisans. Quelques jours plus tard, ma mère a été arrêtée par la Gestapo. Mon frère a réussi à s'enfuir, mais ma mère a été prise. Elle a été torturée, on voulait lui faire dire où j'étais. Elle est restée 2 ans en prison. Pendant 2 ans, les nazis l'ont emmenée, avec d'autres femmes, chaque fois qu'ils partaient en opération. Ils redoutaient les mines posées par les partisans et faisaient toujours marcher devant eux des otages pris dans la population locale. S'il y avait des mines, c'était ces gens-là qui sautaient, tandis que les soldats boches restaient sains et saufs. Ils servaient de boucliers vivants. Pendant 2 ans, ma mère en a fait partie. C'est arrivé plus d'une fois, on est en embuscade et tout à coup, on voit venir un groupe de femmes suivies par des boches. Elles se rapprochent et certains d'entre nous reconnaissent leur mère parmi elles. Le plus terrible, c'est d'attendre que le chef donne l'ordre de tirer. Tout le monde attend ce moment avec terreur, parce que l'un murmure « Là, c'est ma mère. » Un autre « Tiens, là, c'est ma petite sœur. » Alors qu'un troisième n'aperçoit pas son gosse. Maman portait toujours un fichu blanc sur la tête. Elle était grande et on la distinguait toujours la première. Je ne l'ai pas encore remarqué, qu'on me transmet déjà. « Ta mère est là. On donne l'ordre de tirer. Nous ouvrons le feu. » Je ne sais pas bien moi-même sur quoi je tire, je n'ai qu'une idée en tête, ne pas perdre en vue le fichu blanc. Est-elle en vie? Est-elle tombée? Le fichu blanc. Tout le monde se disperse, s'écroule par terre, et je ne sais pas si maman a été tuée ou non. Pendant 2 jours ou davantage, je suis plus morte que vive, jusqu'à ce que nos agents de liaison reviennent du village et me disent qu'elle est vivante. Alors seulement je peux respirer à nouveau, et ainsi jusqu'à la fois suivante.
On va parler sur un point qui a été abordé un tout petit peu au début du livre, « La guerre n'a pas un visage de femme », mais aussi beaucoup dans un autre livre que Zoltán a écrit, c'est la question de la légitimité de retranscrire des témoignages. Elle présente quelques extraits d'entretiens qu'elle a eus avec un censeur. Le censeur, en tout cas, dit que c'est vraiment une honte de raconter ces problèmes physiologiques que ces femmes peuvent rencontrer et que c'est une honte à la patrie et que ça présente les femmes sous un mauvais jour et ça détruit leur figure d'héroïne. Quand on lit ça, on est assez heureux, nous, de lire ces témoignages-là et que ça puisse exister. Mais après, la question se pose de façon peut-être un peu plus ambiguë dans son autre livre qui s'appelle « Les cercueils de zinc », où là, il s'agit donc de la guerre qu'a menée l'URSS en Afghanistan. Donc c'est vrai que la position de l'URSS ici est inversée, puisque c'est elle qui va en Afghanistan pour supposer libérer et éduquer le peuple afghan. Et en fait, elle montre en fait l'horreur qui se passe là-bas. Et ce livre a provoqué un tollé en fait dans l'URSS et a donné lieu à des procès de la part de personnes qui ont été interviewées dans le livre. Donc en fait, les personnes disent que Svetlana Alexievitch a menti et qu'elle a mal retranscrit, ou en tout cas que ce qu'elle a retranscrit en fait a mené à la honte de sa famille. Et une grosse partie du livre, donc dans les cercueils de zinc, c'est la retranscription en fait de ce procès. Et c'est très intéressant en fait de voir, c'est vrai, les problèmes en fait que ça pose de révéler donc une certaine vérité, et puis en fait quelle est aussi la place de Svetlana Alexievitch là-dedans, puisque c'est bien montré, c'est bien expliqué que ceux qui témoignent en fait c'est eux sur lesquels rejaillit la honte, alors qu'elle en fait elle n'a pas participé à cette guerre, elle se fait de l'argent en fait avec ce livre, ou en tout cas c'est ce qui se dit, et qu'elle peut trouver refuge en France ou ailleurs, alors que les personnes qui sont interviewées, ils doivent faire face à des discriminations et à des hontes. Donc je vous invite vraiment à lire ça, et voilà, on va passer donc sur des extraits maintenant sur l'après-guerre.
Et avant que Céline nous lise un extrait, je rappelle qu'on est toujours donc dans notre émission consacrée à Svetlana Alexievitch pour son livre « La guerre n'a pas un visage de femme ».
Grâce à mes décorations et mes médailles, j'ai eu droit à des bons spéciaux pour aller voir au Wernsterg faire des achats. Je me suis offert des bottes en caoutchouc, qui étaient alors très très à la mode, un manteau, une robe, des bottines. J'ai décidé de vendre ma capote, je suis allée au marché et je portais une robe de soie. Et là, qu'ai-je vu là-bas ? Des jeunes gens amputés, des deux bras, des deux jambes, tous anciens soldats. Ceux qui avaient encore leurs bras vendaient des cuillères en bois qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Les autres, ceux qui n'avaient plus ni bras ni jambes, ils étaient là, inondés de larmes. Ils demandaient l'aumône. Voilà le tableau. Je suis reparti sans avoir vendu ma capote, et tant que j'ai vécu à Moscou, 5 ans peut-être, je n'ai jamais pu retourner à ce marché. J'avais peur qu'un des infirmes ne me reconnaisse et me dise « Pourquoi tu m'as sauvé ?» Je me rappelais un jeune lieutenant. Quand j'étais allé le chercher, il avait les jambes, les deux jambes en sang. L'une avait été presque sectionnée par un éclat. Je le pensais, sous les bombes. J'ai failli moi-même y rester. Et je l'ai tiré de là, et j'ai réussi à stopper l'hémorragie. Et il me criait « Laisse-moi ici ! Achève-moi !» Il l'exigeait. « Vous comprenez ?» Alors voilà, j'avais tout le temps peur de rencontrer ce lieutenant.
Je crois qu'on arrive à la fin de notre émission, parce qu'il est déjà presque l'heure de passer à l'émission Éco-Palestine. Avant qu'on fasse l'agenda, Céline, tu voudrais dire 2 mots sur le massacre qu'il y a eu hier à Orlando, en Floride ?
Oui, bien sûr. Bah, c'est cool de faire exister dans une émission de médias, puisque, a priori, on parle beaucoup des morts, on parle beaucoup des familles de morts, mais il y a un mot ou quelques mots qui sont un peu oubliés, c'est le fait que ces personnes étaient quoi ? Elles étaient homosexuelles. Hein, on peut peut-être le dire bien fort à la radio, elles étaient pour la plupart homosexuelles. Donc parce que parmi les titres des grands journaux, on ne voit pas que c'était la communauté gay qui à essuyer cette fois cette attaque terroriste. Donc, on pourrait le préciser. On peut aussi le préciser à la Manif pour tous, Le Pen, François Hollande, hein, qui apportent leur soutien aux familles. N'hésitez pas à dire, vous aussi, le mot homosexuel. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Enfin, s'il y a un problème là-dessus. En tout cas, nous, on voulait, bien sûr, donner tout notre soutien à la communauté homosexuelle, à toutes les personnes qui ont perdu des amants, des amantes, des petits amis, des petites amies, et à toutes ces familles.
Et rappelez que ce soir à 19h30, il y a un rassemblement à République en soutien aux victimes. Rapidement, un petit agenda. Demain, grosse journée de mobilisation avec une manifestation donc, au départ de Place d'Italie. Le cortège féministe se réunit devant le cinéma L'Escurial, donc Place d'Italie à Paris. À 12h, donc même heure, même jour, à Cour Saint-Émilion, l'arrêt de métro, il y a un pique-nique contre Eurosatoris, le salon de l'armement dont vous parlez, Clarisse, tout à l'heure. Et sinon, en fin de semaine, grosse mobilisation également avec une journée de rencontres et d'échanges femmes et travail à la Bourse de Travail de Paris. Donc il y a plein d'ateliers, je vous invite à voir l'événement sur Internet et sur les différents médias. Il y a également une soirée de lancement de la compile féministe Insurrection, samedi soir à partir de 18h30 au squat Le Stendhal à Paris. Pour le reste, on vous mettra tout ça sur notre blog de Langue de Fronde. Est-ce que je peux continuer de parler encore un petit peu? Alors, une autre chose, c'est que vendredi 17 juin à 19h, dans le quartier de Belleville à Paris, il y a une réunion publique organisée avec les travailleuses du sexe de Belleville à la maison du Bas Belleville. Donc, cette réunion est organisée et appelée par le Lotus Bus de Médecins du Monde, Les Roses d'Acier et Arrêt Média pour enfin discuter de comment ces travailleuses sont aussi des habitantes et comment elles peuvent vivre plus dignement et dans des conditions plus sécuritaires, dans ce quartier. Et une dernière chose, en écho un peu à ce qu'on avait évoqué dans cette émission et dans l'émission précédente, samedi 25 juin, à partir de 9h à l'Université Paris 8, donc le lieu reste encore à confirmer pour la salle, etc., il y a le mouvement international des femmes kurdes qui organise une conférence non mixte de généalogie. Donc généalogie du terme kurde djinn qui veut dire femme, suivi de logie du grec logos, discours, raison. Enfin bref, ça a l'air super, on va apprendre plein de choses lors de cette journée. On vous remercie encore pour d'avoir été là à nous écouter et on vous dit à bientôt au mois de juillet.
À dans un mois, salut.
Salut, salut. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.